Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Suivez Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Certaines maladies sont causées par des anomalies génétiques, des carences alimentaires, par des infections ou des problèmes gynécologiques. Le sujet au centre de Priorité Santé aujourd'hui, c'est l'anémie. Et cette baisse du taux d'hémoglobine peut s'expliquer par cet ensemble de facteurs, soit séparément, soit combinés. Saignement, carence en fer, maladie chronique. Et quand ces causes ne sont pas dépistées, pas diagnostiquées, eh bien la personne anémiée peut présenter des symptômes caractéristiques. Les anémies sévères peuvent présenter un risque vital, d'où l'importance de reconnaître ces signes. Également d'identifier les personnes les plus à risque, en premier lieu, les femmes et les enfants. Et nous allons le voir au cours de l'émission, au travers de vos témoignages. L'anémie peut être effectivement d'origine diverse et appelle donc une prise en charge adaptée à l'affection sous-jacente comme au niveau de carence. Pour poser vos questions à notre invité spécialiste en hématologie, cette discipline qui s'intéresse aux maladies du sang, eh bien notre numéro WhatsApp, c'est toujours le 33 7 71 18 46 41. Quels sont les principaux signes de l'anémie? Quels sont les aliments à privilégier lorsque l'on est sujette à des carences? Au Sénégal, on vous retrouve. Professeur Aouaou Martouré, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes responsable du laboratoire d'hématologie à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'université Cheikh Diop de Dakar. Et vous vous trouvez, professeur Touré, en ce moment dans les studios RFI Dakar en full day et mandinquant. Et on remercie, comme d'habitude, toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
Alors, plusieurs causes possibles donc pour l'anémie. Est-ce que d'ailleurs, professeur Aouaou Martouré, anémie égale carence en fer ou c'est plus compliqué que ça?
C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et j'aime bien cette phrase parce que je termine souvent mes cours sur l'anémie par carence en fer pour leur dire, et l'anémie en général, que l'anémie n'est pas égale à carence en fer. Il faut reconnaître un fait, la plus grande part des anémies est liée à la carence en fer. Ça peut aller jusqu'à 68-70% chez nous. Mais il y a beaucoup d'autres causes d'anémie. Les anémies liées à d'autres pathologies qui interfèrent avec le métabolisme des érythrocytes, leur croissance, c'est les ancêtres des globules rouges. Il y a d'autres maladies génétiques qui sont dues à l'absence d'un des constituants du globule rouge, que ce soit... C'est ce qu'on appelle les anémies corpusculaires, c'est intrinsèque au globule rouge, où le globule rouge peut être agressé par des anticorps, c'est les anémies hémolytiques immunologiques, par des infections, comme vous l'avez très bien dit, ou par des toxines. Chaque jour, on prend des médicaments, que ce soit traditionnels ou des médicaments orthodoxes. Ces médicaments peuvent également agresser nos globules rouges. Ou bien, la moelle peut être envahie. La moelle, c'est là où les cellules sont fabriquées, en particulier les globules rouges qui constituent la majorité de nos cellules, peut être étouffée par ses propres cellules qui prennent leur indépendance, c'est la leucémie, ou par d'autres cellules qui viennent l'envahir. En ce moment, la moelle n'a aucun souci, mais elle est étouffée par des substances étrangères qui lui empêche simplement de produire ses globules rouges. Ça, c'est en gros les grandes causes d'anémie.
Alors voilà pour le tableau. Professeur Touré, quand on parle des saignements à l'origine de la carence en fer, on peut imaginer que l'une des principales causes, ce sont les menstruations. Hein. On est dans l'émission Questions de femmes. Alors, qu'est-ce qui va faire que certaines femmes vont maintenir ou reconstituer un taux d'hémoglobine à un niveau satisfaisant et pas d'autres lors des règles?
Les pertes sanguines liées aux règles sont très bien compensées par une alimentation bien équilibrée, de 3000 calories par jour. Donc les besoins en fer chez la femme sont le double de l'homme justement à cause de ces pertes, 2 à 4000 grammes par jour. Donc très très bien compensées par notre alimentation. Maintenant, c'est un robinet, ça va de haut en bas. Si les apports sont insuffisants, ça ne compensera pas ces pertes. On est anémie. Si les pertes sont excessives, l'alimentation ne pourra pas compenser cette perte massive en fer. C'est ce qu'on appelle les ménos ou les métrorragies. En ce moment, il n'y aura pas de compensation et ces personnes seront anémies.
Professeur, à partir de quel taux d'hémoglobine, on va dire plancher, une personne est-elle considérée comme anémiée?
Chez la femme, c'est 12 grammes par décilitre chez la femme et l'enfant, 13 grammes par décilitre chez l'homme, 14 grammes par décilitre chez le nouveau-né et on peut admettre jusqu'à 10,5 grammes par décilitre chez la femme enceinte.
Alors un élément très important, professeur Aouaoumar Touré, c'est bien de repérer ces symptômes suffisamment tôt justement pour pas que la personne arrive extrêmement anémiée. Ces symptômes, ces signes qui doivent alerter, là s'il y a des auditrices qui écoutent, c'est quoi ces signes?
Les signes, c'est la pâleur. Si c'est une personne à carnation claire, la personne a l'impression de devenir plus claire. C'est simplement lié au fait que la personne est moins colorée, en rouge, et ça donne l'impression d'être pâle. Chez les sujets clairs et les sujets caucasiens, c'est comme ça qu'on le voit. Chez nous, qui sont plus foncés, c'est au niveau de la paume des mains, au niveau de la face interne de la joue, ou des conjonctives. Ça, c'est le premier signe. Ensuite, au fur et à mesure qu'on laisse l'anémie s'installer, le cœur va finir par essayer de s'adapter à cette anémie et accélérer la cadence. C'est la tachycardie. Et en termes populaires, c'est les palpitations. Ensuite, le poumon aussi va essayer d'amener beaucoup d'oxygène pour compenser le défaut en globules rouges et en hémoglobine. Et le poumon aussi, en s'accélérant, ça crée la dyspnée. La difficulté à respirer, ce qui devient de plus en plus grave et avec un périmètre de marche plus raccourci. Et la fatigue. Donc, pâleur, fatigue, parce que tout simplement, les organes, les muscles ne sont plus assez bien oxygénés.
On a une question sur les symptômes, c'est Fatouma du Niger qui écrit sur WhatsApp « J'ai parfois des gonflements aux pieds et des maux de tête. Est-ce que ce sont des signes d'anémie ? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?»
Les maux de tête, effectivement, le cerveau et le rein sont les deux organes qui ne supportent pas le manque d'oxygène. Donc, ça peut se manifester par des céphalées. Maintenant, quand ça arrive au stade d'œdème, c'est quand même un stade assez avancé. Cela veut dire que le sang est tellement dilué par défaut de globules rouges que l'eau qui est à l'intérieur du sang est en train de sortir et d'aller sous la peau. Ça, c'est un signe d'anémie assez avancée quand même. Mais il faut éliminer les autres causes d'œdème des membres.
Quel est justement ce lien entre palpitations cardiaques et anémie?
C'est simplement une adaptation cardiaque à ce défaut d'oxygène. Le cœur se rend compte que l'oxygène est devenu insuffisant aux organes parce qu'il y a une anémie, le taux d'hémoglobine est bas, donc l'hémoglobine n'est pas suffisant pour transporter l'oxygène. Donc le cœur va accélérer la cadence pour amener le plus de sang possible au niveau des organes pour compenser le défaut de l'hémoglobine. Et cette accélération de la cadence explique la tachycardie ou palpitation.
Professeur Touré, avant d'entendre nos premiers témoignages, en dehors d'une situation de crise alimentaire provoquée par exemple par l'insécurité, des déplacements de population ou même un accident climatique, la sécheresse, est-ce que certaines personnes peuvent se retrouver sévèrement anémiées en raison, on va dire tout simplement, du déséquilibre nutritionnel?
On le voit vraiment de moins en moins. C'est vraiment des situations, comme vous l'avez très bien expliqué, catastrophiques, expliquent parce que une alimentation normale, même pas forcément carnée, riche en viande, une alimentation normale compense très bien et nous permet d'avoir, il n'y a que 10% de notre alimentation dont on a réellement besoin qui va être absorbée et peut nous permettre de fabriquer l'hémoglobine dont on aura besoin pour faire. Donc, c'est vraiment des situations catastrophiques, really. Maintenant, il y a une circonstance physiologique qui est la femme enceinte qui a un double besoin, les besoins liés à sa propre personne et les besoins liés au fœtus. Effectivement, si son alimentation est précaire, là, l'anémie peut apparaître très rapidement.
Ça veut dire qu'il faut des contrôles accrus au moment de la grossesse, dès le début de la grossesse?
Dès le début de la grossesse, d'ailleurs le schéma en Afrique est différent du schéma en Europe. Le schéma en Afrique recommande la supplémentation à faire dès le début de la grossesse.
Tout de suite, nos premiers témoignages. « C'est le moment de retrouver notre palabre au féminin et ça se passe justement chez vous à Dakar cette semaine où notre reporter Charlie Dupio a rencontré Christelle, 38 ans, Awa, 40 ans. C'est Awa qui entame la discussion.
La première grossesse, j'étais jeune, donc quand on me donnait même les médicaments, je ne les prenais pas. Je prenais les fermes, pas tout le temps, pas très sérieux quoi. À chaque fois quand je viens en consultation, ils me disent « Est-ce que tu as des vertiges ?» Moi, j'ai dit non, je n'avais pas de vertiges.
Moi, j'ai fait le contraire de Awa. Hein. La première grossesse, j'étais très assidue. Je prenais bien mes médicaments comme une bonne élève. Et la deuxième, non. Je ne prenais pas vraiment. Je n'étais pas vraiment sérieuse. Donc, la deuxième grossesse, bon, quoi, c'était plus relax. Déjà, c'est venu par surprise. Donc, du coup, je ne m'y attendais pas. Et puis, voilà. Donc, je me suis dit, c'était tant mieux. Je rendrai grâce. Mais je n'étais pas vraiment une bonne élève en matière de médicaments. Je ne prenais pas bien mes fers. Et j'ai pu voir que j'étais vraiment fatiguée, surtout vers la fin. J'ai une proche qui est docteur qui passait souvent me voir et c'est là qu'elle m'a dit « Mais écoute, tu as l'air fatiguée, tu as l'air pâle, il faut prendre du fer. Prends tes fers parce que tu as l'air pâle, tu manques de sang. » Et puis c'est vrai qu'avec la prise de fer, de façon respectueuse par rapport à la dose, m'a beaucoup aidée à pouvoir remonter, ne plus être trop rapaplat et puis tenir bon jusqu'à la fin, quoi.
Je me rappelle quand j'avais commencé en 2021, j'avais commencé à travailler, je faisais des va-et-vient. Donc, j'ai quitté Dakar pour aller à Thiès, Thiès pour Dakar, chaque jour. Donc, à un moment donné, je me sentais que ça n'allait pas, je ne me sentais pas très bien, franchement. Un matin, très tôt, je suis partie à l'hôpital voir le docteur. Je l'ai trouvé sur place. Il m'a prescrit une liste d'analyses à faire. J'ai même fait l'analyse sur le sang. C'est pour voir est-ce que je suis anémie ou pas. Donc, quand j'ai amené les résultats pour voir le docteur a pris les résultats, il a regardé. Il a dit, pourtant, tu es juste fatiguée parce que les va-et-vient, ça fatigue. Mais je croyais que tu avais de l'anémie. Parce que quand on a de l'anémie, en général, on est fatigué. Tout ce qu'on fait, c'est comme si on est dégoûté, quoi. Parce que moi, quand il faisait la consultation, c'est ça que je lui ai dit. Je lui ai dit que là, je ne peux plus rien faire. Même quand je marche, je suis fatiguée. Après, il m'a dit, attends, on va faire le test d'anémie. Quand il l'a fait, je n'avais pas d'anémie.
Moi, je me rappelle quand j'étais bébé, ma mère nous faisait ma mère nous faisait des cures contre l'anémie. Automatiquement, nous faisait ça par chaque trimestre, oui. Oui, chaque trimestre, elle me disait, oui, c'était, elle me disait que c'était pour éviter qu'il y ait de l'anémie, parce que bon, jeune enfant, on bouge beaucoup, on se blesse et tout ça. Et souvent, chaque fois, elle baissait le bas des yeux pour voir si c'est rouge. Et c'était pour elle le signe qui disait si on était soit anémié ou pas, si on avait assez de sang. Donc les médicaments, je crois, c'est des petits médicaments noirs, très très dégueulasses. C'était pas bon du tout, je me rappelle. Ça avait un goût de fer, comme du fer, le métal, quoi. Voilà. Et je crois que ça s'appelait fer folding, je crois. Un truc comme ça. Je me rappelle qu'elle nous a fait ça pendant très longtemps. Et surtout, quand par moment on a l'air fatigué, qu'elle vous appelle pour vous dire que voilà, venez. Vous savez qu'elle va vous baisser le bas des yeux. Et si jamais c'est blanc, savoir que que c'est une cure de fer folding qui va se mettre en place. Et c'était pas forcément agréable, mais on le faisait. À part ça, elle nous faisait des tisanes. Il y a une tisane qu'on appelle chez nous au Togo. Je suis togolaise. Il y a une tisane qu'on appelle Adako. Ce sont des tiges toutes rouges, des longues tiges rouges. Je sais pas s'il y en a ici. Au Sénégal, je n'ai jamais vu. Et elle nous en faisait boire souvent contre l'anémie. Enfin, elle nous faisait comprendre que l'anémie, ça causait de la fatigue. Si on n'a pas de sang, on serait fatigué, on aura mal à la tête et tout. On pourra se retrouver à l'hôpital. Et bon, vu que ce dont on avait tous peur, c'était les piqûres, on allait se faire piquer et tout. Et je crois que c'est surtout... Bon, elle disait manquer de sang. Je pense que dans la compréhension de tout le monde, l'anémie, c'est le sang en fait qui manque. Pour elle, il fallait forcément, coûte que coûte, éviter qu'on soit anémié.
Quand on entend ça, on a envie de se dire, hein, professeur Awa Oumar Touré, prenez votre fer. Est-ce que vous faites passer le message, vous, aux patientes? Vous êtes en hématologie, pas forcément en contact direct avec les futures mamans, avec les jeunes filles. Mais est-ce que le message passe bien auprès de la population?
Je pense que le message le plus important, c'est auprès des femmes enceintes. Ouais. c'est auprès des femmes enceintes. Et la prévention de tout cela, c'est ce que faisait peut-être la maman de Christelle, c'est les jeunes filles en âge de procréer. Il faut leur apprendre à connaître leur corps quand elles sont fatiguées. Comme les jeunes filles sont toujours en régime permanent, elles peuvent, avec les règles chaque mois, elles peuvent faire facilement des anémies. Et partir sur une grossesse avec ça, effectivement, ça aggrave beaucoup le pronostic maternel plus que fœtal. C'est plus les femmes enceintes qui nous posent problème. Les jeunes filles, il faut les préparer à devenir des femmes à bien gérer cette grossesse sans anémie.
On va prendre une première auditrice en ligne.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Et nous retrouvons en ligne Sandrine. Sandrine, bonjour.
Bonjour Caroline. 40, bonjour docteur.
45 ans. Vous faites des bilans sanguins souvent, Sandrine ?
Oui, en fait, le dernier bilan sanguin datait de la mi-2022 parce que en fait, j'avais une anémie chronique. Donc, c'était m'assuré du taux d'hémoglobine sanguin. Voilà.
Ça veut dire que à plusieurs reprises, vous aviez fait des examens et on avait constaté que votre taux était trop bas, c'est ça ?
Effectivement, à plusieurs reprises, surtout quand j'avais des crises de palu. On se rendait compte que mon taux d'hémoglobine était entre 10 et 11, donc il était en deçà de la norme. Donc
de la norme. 12, ça mérite une petite explication avec notre spécialiste, professeur Awa Oumar Touré. Certaines personnes peuvent se dire, quel est le rapport entre la composition du sang et l'anémie ? Alors on vous écoute pour la réponse.
Pour ce qui concerne la composition du sang et le fait que les gens pensent qu'il manque plutôt du sang, ce qu'il manque, c'est de l'hémoglobine. Et cette hémoglobine, c'est ce qui colore nos globules rouges en rouge foncé. Donc, c'est l'hémoglobine des globules rouges qui manque. C'est pour ça qu'on définit l'anémie telle qu'elle. Donc, on ne manque pas de sang de façon globale, mais on manque de l'hémoglobine. Et ça n'impacte pas sur le volume sanguin. Les globules blancs sont là, les plaquettes sont là. Mais c'est la concentration de l'hémoglobine qui baisse. Donc, les globules rouges deviennent pâles. Et la pâleur se voit sur tout le corps.
C'est quoi le rapport entre cette hémoglobine et le paludisme ?
Le plasmodium falciparum qui sévit chez nous, il a besoin pour se multiplier de rentrer dans le globule rouge. Donc ça fait partie de son cycle évolutif. Quand il rentre dans l'organisme de l'individu, il va passer par le globule rouge pour se développer. Et quand il rentre dans le globule rouge, il fait éclater le globule rouge. C'est ce qu'on appelle l'hémolyse. Donc, en faisant éclater les globules rouges, il nous fait perdre des globules rouges, donc il nous fait perdre du taux d'hémoglobine. Et c'est pour cela qu'on est légèrement anémié, pas profondément, sauf si on a un terrain particulier d'anémie chronique, mais légèrement anémié après un accès palustre simple que nous faisions il y a un certain moment quand on était jeune chaque année.
Et vous, Sandrine, c'est par l'alimentation que vous avez trouvé des solutions pour cette anémie qui revenait régulièrement, hein, c'est ça ?
Effectivement, donc l'anémie revenait régulièrement pendant et après les crises de palu et aussi pendant et après les menstrues. Et j'ai vraiment réussi à relever le défi par l'alimentation. J'ai une hydratation chaque matin en maintenant un litre d'eau citronnée et plus tard avec des fruits que j'associe toujours avec de la spiruline. Et au petit déjeuner, de la bouillie de mil ou de la bouillie de sorgho associée au jus de citron, avec aussi de la poudre de baobab. Et on a constaté cette amélioration en 2016-2017. C'est mon médecin qui me dit, mais Sandrine, on voit que ton taux d'hémoglobine a augmenté, mais ça va mieux. Qu'est-ce que tu fais ? Il dit, docteur, chaque matin maintenant, je me discipline à prendre au petit déjeuner ma fameuse bouillie de mil ou la fameuse bouillie de sorgho.
Le magazine
Donc voilà, c'est un régime santé, là, pour le coup, c'est pas un régime restrictif. Vous en pensez quoi, professeur Awa Oumar Touré, de ces apports, justement, en féculant en graines pour essayer de booster le taux d'hémoglobine ?
Il y a deux éléments que j'ai retenus dans ce qu'elle prenait. C'est vrai, il y a les apports en féculents. Et dans les féculents, on trouve du fer, mais un peu seulement. Mais j'imagine qu'en dehors de cet apport en féculents, elle avait une alimentation normale, carnée et tout. Et l'autre élément que j'ai retenu de son discours, c'est le citron qu'elle a associé soit à la bouillie ou sous jus de citron. Ça, c'est pas mal, ça. Dans le citron et le baobab, on a énormément de vitamine C. Et les gens ne le soupçonnent pas, mais la vitamine C aide beaucoup à l'absorption du fer. Et l'acidité de la vitamine du citron libère le fer des protéines auxquelles il est associé dans l'estomac. Donc d'abord, premier temps, il va libérer le fer. Et ensuite, deuxième temps, dans l'intestin, il va permettre d'accélérer l'absorption du fer. Ne serait-ce qu'avec ce citron et un peu de féculent, en plus d'une alimentation normale, effectivement, elle a pu régler son problème d'anémie.
Voilà, Sandrine, vous avez une question à poser à notre invité, allez-y.
Alors, la question est la suivante. J'aimerais savoir... À quel niveau d'hémoglobine une transfusion sanguine s'avère nécessaire chez l'enfant, chez la femme adulte et chez l'homme adulte?
Alors, professeur Touré, évidemment, il ne va pas y avoir de transfusion systématique en cas d'anémie. Comment est-ce que cette décision elle est prise?
Cette décision dépend de trois importants éléments. Pas seulement du taux d'hémoglobine. C'est variable en fonction, un, de la vitesse d'installation d'une anémie. Vous allez voir des gens avec 3 grammes qui n'ont pas besoin de transfusion en urgence, non, parce que leur corps s'est adapté et a pu vivre avec ces 3 grammes. Donc on y va, on remonte la pente doucement, ces gens, vous les transfusez, vous risquez de les tuer. Ensuite, ça c'est la vitesse d'installation de l'anémie. Tout ça, c'est les éléments de tolérance de l'anémie. Donc plus vite ça s'installe, quelqu'un qui fait un accident de la route, qui perd énormément de sang, il faut transfuser. Quelqu'un qui a pris 3 à 4 ans à faire son anémie, c'est pas la peine de transfuser. Le taux d'hémoglobine intervient bien sûr, parce que à sujet égal, celui qui a une anémie chronique ou qui a une anémie aiguë qui se retrouve avec 3 grammes et celui qui a le même type d'anémie avec 2 grammes, on priorise de se remonter plus rapidement celui qui est à 3 grammes. Donc la vitesse d'installation, le taux d'hémoglobine et la cause de l'anémie. La cause de l'anémie, c'est ce que je disais, anémie aiguë ou anémie chronique.
Merci beaucoup Sandrine pour votre appel. Et vous nous faites partager votre choix musical, Sandrine, deux grandes voix réunies. Pas n'importe qui, Myriam Makeba, Paul Simon, 1986. Petit voyage en arrière avec Under African Sky sur RFI. Sandrine, on vous dit très bonne journée à Abidjan.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under African skies. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Township of Mofolo, give her the wings to fly through harmony. She won't bother you no more. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the rain. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Down, bop. Was black as night, the pale.
yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked the length of his days under African skies.
Priorité santé sur RFI, nous parlons de l'anémie, les causes, les symptômes, bien sûr les prises en charge. Toujours à Dakar, dans les studios de RFI, on retrouve la professeure Awa Oumar Touré, spécialiste en hématologie. Et c'est au Cameroun que nous sommes maintenant en ligne avec Honorine. Honorine, bonjour.
Bonjour.
À Yaoundé, vous avez 33 ans, Honorine. Et suite à une série de symptômes, eh bien, votre médecin vous a prescrit des examens sanguins. Alors, quels sont ces signes qui vous ont alerté ?
Alors, j'étais tout le temps fatiguée. J'avais le cœur qui battait vite au moindre effort. J'avais tout le temps envie d'être couchée. Très, très mal à la tête.
Et tous ces symptômes ont débouché, s'il vous plaît, sur quel diagnostic ?
On m'a diagnostiqué un lupus avec une atteinte rénale.
Une atteinte rénale qui vous a conduit à vous rendre dans un centre de dialyse, c'est ça ?
Exactement.
Aujourd'hui, est-ce que la dialyse s'est terminée et vous en êtes où par rapport à l'anémie ?
Alors, la dialyse n'est pas terminée, malheureusement, parce que j'ai une insuffisance rénale chronique. Donc, je serai toujours des dialyses.
À quelle fréquence vous allez au centre de dialyse ?
Deux fois par semaine.
Ah oui, c'est lourd. C'est loin de chez vous ?
Non, pas très loin.
Donc ça, c'est le bon signe. Par contre, j'imagine qu'au niveau de la prise en charge, c'est quelque chose qui est très coûteux ?
Plus maintenant. Oui. On a tout fait au Cameroun pour que ce soit beaucoup plus accessible.
Donc ça, c'est vraiment un bon point, très important. Moi, j'ai une question à notre spécialiste, professeur Touré. C'est quoi le lien entre l'anémie et l'insuffisance rénale ?
En fait, la production des globules rouges est régulée par des facteurs de croissance. Et parmi les facteurs de croissance les plus importants en termes d'activité et de nombre, c'est l'érythropoïétine EPO, que tout le monde connaît avec le dopage. Donc, c'est le rein, en fait, qui sécrète l'EPO. Donc, quand le rein ne fonctionne pas, il n'y a pas d'érythropoïétine et toute l'érythropodèse, c'est-à-dire la chaîne de production de nos globules rouges, donc bien sûr de l'hémoglobine qui est à l'intérieur, est bloquée et l'individu est anémie.
Et maintenant, Honorine, on écoute votre question. Allez-y, je vous en prie.
Depuis que je suis tombée malade, je suis vraiment sujette à une anémie. Je sais pas si elle est chronique. Mais justement, on m'a prescrit des injections d'érythropoïétine. Donc, je dois les prendre constamment. Mais j'aimerais savoir quelle alimentation adopter pour booster le taux d'hémoglobine. Est-ce qu'il y a des croyances et pratiques locales, il y a de la naturopathie, mais qu'est-ce qu'elle pourrait me dire à ce propos, vraiment ?
Est-ce que l'alimentation chez Honorine, dans un cas particulier, hein, puisqu'elle a une maladie particulière, ce lupus conjugué à une insuffisance rénale, changer certaines choses dans l'assiette, est-ce que ça peut l'aider du point de vue de la santé ?
En fait, l'érythropoïétine va faire le travail de production des éléments figurés, mais en particulier du globule rouge. Mais vous pouvez simplement booster, aider l'érythropoïèse en prenant des vitamines, en particulier la vitamine B, la vitamine B6. La vitamine B est contenue un peu dans nos riz. La vitamine C, donc booster un peu la moelle, fouetter la moelle pour qu'elle soit moins paresseuse. En même temps, on comprend l'érythropoïétine. Mais l'élément fondamental pour vraiment générer vos globules rouges et votre hémoglobine, ce n'est que l'érythropoïétine.
Donc le traitement que vous prenez déjà, Honorine. Un grand merci, bon courage pour la suite. On a une question de Lynn qui demande si l'anémie est héréditaire.
L'anémie peut être héréditaire, hein ? Oui, parce que la cause de l'anémie peut être héréditaire.
Oui, par exemple, si on pense à la drépanocytose, c'est voilà. Génétique, donc héréditaire. Donc dans exact. Certains cas, ça peut l'être. Lynn, toujours, exact. Qui voudrait connaître la différence entre l'anémie, attention, un mot compliqué, l'anémie mégaloblastique et l'anémie pernicieuse.
Et bravo Lynn, je ne savais pas que les auditeurs pouvaient connaître...
Ah bah, on a des femmes savantes, hein, nous, à priorité santé, c'est comme ça. Hein.
Ah bah oui, formidable. Vous avez utilisé deux termes qui retracent l'histoire de cette anémie, qui est l'anémie par carence en vitamine B12. À l'origine, on l'appelait anémie pernicieuse, parce qu'effectivement, c'est une anémie extrêmement pernicieuse, qui prend 3 à 5 ans avant de se manifester. C'est-à-dire l'individu est en train de perdre son taux d'hémoglobine, le cœur s'adapte. Il est en train de perdre, son cœur s'adapte jusqu'à ce qu'il arrive dans les chaussettes, ce qui est presque incompatible avec une vie. Et pourtant, l'individu vit et avant qu'on le décèle. C'est pour ça qu'on l'appelait anémie pernicieuse. Maintenant, on a compris après que c'était lié à une carence en vitamine B12. Et la vitamine B12 intervient dans la formation du globule rouge, notamment le noyau. Et quand on a cette carence, le noyau pousse, se multiplie et le cytoplasme, la cellule ne se dissout pas. Ça vous donne des cellules monstrueuses, de grande taille. C'est ce qu'on appelle les mégaloblastes. Et c'est là le nom scientifique de cette anémie par carence en vitamine B12 est devenu l'anémie mégaloblastique.
Et voilà l'explication. Maintenant, professeur Aouaoumar Touré, c'est d'Allemagne, précisément de la ville de Cologne, que Mariama nous a envoyé ce message sur le répondeur WhatsApp de l'émission au 33 7 71 18 46 41. On l'écoute.
Bonjour Priorité Santé, j'ai 36 ans, je suis enceinte de 27 semaines et il y a 2 semaines, lors de ma consultation prénatale, ma gynécologue m'a informé que j'avais un taux très bas de fer. J'étais à 8,89. C'est vrai que avant cette consultation, j'étais tout le temps fatiguée, essoufflée. J'avais du mal à terminer une discussion. J'avais des picotements aux pieds. Donc, j'attendais justement ce contrôle-là pour en parler avec la gynécologue. Donc, après ça, elle m'a prescrit du fer que je prends maintenant. Ça fait 2 semaines. Il y a quelques améliorations. Je ne suis pas toujours trop fatiguée. Je suis de moins en moins essoufflée, je n'ai plus de picotement au pied, ça c'est bien. Et donc j'ai 2 questions pour votre invité. Est-ce que je continue de prendre ce fer-là jusqu'à l'accouchement ou bien j'arrête quand j'aurai plus de symptômes, sachant que je suis drépanocytaire AS? Et ma 2e question, est-ce que ce manque de fer-là que j'ai eu, parce que je suis quand même restée, disons, 1 mois sans voir un médecin, sans prendre du fer, est-ce qu'il y aura des répercussions sur mon enfant? Merci beaucoup.
Alors, professeur Aouaoumar Touré, vous êtes hématologue, vous n'êtes pas voyante, donc vous ne pouvez pas vous lire dans l'avenir. Par contre, en revanche, ce qui est important, j'imagine, de dire à cette auditrice qui est en Allemagne, Mariama, c'est qu'il faut aussi poser ces questions à son médecin traitant ou à sa sage-femme.
Ce que je peux dire, c'est qu'il faut qu'elle continue, quelle que soit l'horizon où on est. C'est à 27 semaines d'aménorrhée quand même qu'elle s'en rend compte. Est-ce que la grossesse était suivie depuis le départ? Donc, il faut qu'elle continue jusqu'au bout. Ça, quel que soit l'horizon, en Cologne, partout, il faut qu'elle prenne son fer. Ça, les expériences des autres, des uns et des autres, m'ont assez édifiée. Par rapport aux conséquences sur le fœtus, ça aussi, les études scientifiques l'ont montré. Et c'était facile de les faire chez nous. Où on a regardé plusieurs types de femmes, des femmes qui avaient des anémies simples, sans que les réserves ne soient atteintes, des femmes qui avaient des réserves moyennes et des femmes qui n'avaient presque plus rien. Et on s'est rendu compte que l'enfant naissait, après la naissance, on a refait le taux d'hémoglobine chez les fœtus, et on a regardé les réserves du fœtus. Ceux qui avaient des mamans qui n'avaient pas de réserve, mais n'étaient pas foncièrement anémies. Les autres n'étaient pas anémies et avaient des réserves. Cela veut dire que le fœtus prendra toujours chez la mère ce dont il a besoin, quelles que soient les conditions de la mère. Il va prendre le fer dont il a besoin, ça lui permettra d'avoir son taux d'hémoglobine bon et pour être en forme au moment de la naissance. Donc, en prenant son fer pendant sa grossesse, la femme se préserve plus et permet au fœtus de prendre ce dont il a besoin et qu'elle-même, elle ait ses propres réserves et pouvoir tenir et faire un accouchement sans trop de soucis.
Et ce qui est important dans cette question aussi que pose Mariama, souvent c'est posé dans cette émission, c'est pas parce que les symptômes s'arrêtent qu'on arrête le traitement. Et dans ce cas-là, on pose toujours la question au médecin, c'est très important de le rappeler.
Oui.
On va retourner au Cameroun. Cette fois, c'est à Berthois qu'on retrouve Nicaise. Bonjour Nicaise.
Bonjour.
Alors Nicaise, vous avez 30 ans et vous êtes en situation de fatigue chronique depuis plusieurs années. Quand est-ce que ce diagnostic d'anémie a été posé chez vous?
Ça fait exactement 5 ans aujourd'hui. Je suis constamment fatiguée. Je passe des journées où parfois je me retrouve en état de fatigue, vision floue, je manque d'appétit.
Donc vous manquez d'appétit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mangez combien de fois par jour?
Je peux pratiquement passer même une journée, je ne mange pas, je n'ai pas l'envie de manger.
Moi, j'ai une question à vous poser, Nikèse. Vous me dites, je suis très fatiguée, j'arrive rien à faire, mais des fois, je ne mange pas. Est-ce que vous, vous n'arrivez pas du tout à manger ou vous n'êtes pas motivée? Est-ce que, question très bête peut-être, est-ce que vous ne pouvez pas vous forcer à manger un petit peu plus?
Bon, bref, je ne m'efforce pas très souvent.
Pourquoi? Vous avez un dégoût? Vous avez un problème par rapport à l'alimentation? Quand je vous dis ça, je ne vous fais pas du tout la morale. J'essaye juste de comprendre, parce qu'on se dit, si on est fatigué, on essaye de manger pour recharger les batteries. Mais Nikèse, elle ne le fait pas. Alors pourquoi?
Très souvent, je n'ai pas souvent l'envie de manger.
Il y a des, problèmes dans votre vie, Nikèse? Est-ce qu'il y a des choses qui vous pèsent, des gros ennuis qui font que vous traînez des pieds le matin pour vous lever?
Pas vraiment. Je n'en ai pas.
Vous n'en avez pas. Et qu'est-ce qu'a dit le médecin quand vous lui dites « j'ai pas d'appétit »
Très souvent, le médecin m'a mis sous je prenais très souvent les vitamines.
Côté poids, est-ce que vous réussissez à vous stabiliser?
Pas du tout. C'est ça mon véritable problème. Très souvent, je me retrouve à 43 kilos, 42. Si j'en ai trop pris, c'est 45.
Est-ce que le médecin vous a conseillé d'aller rencontrer une nutritionniste ou un spécialiste justement de l'alimentation pour vous aider à mieux manger?
Non, il ne m'a pas conseillé.
Et si on vous le disait, ce serait peut-être une bonne idée, vous en pensez quoi?
Oui, c'est une bonne idée, mm-hmm. Je le fais, je pense.
Mm-hmm. Nikèse, vous pouvez poser vos questions à notre invité s'il vous plaît.
Ma question, c'est une question à deux volets en fait. Ma question est la suivante, est-ce que l'anémie être la cause des troubles d'appétit?
Mmh.
Deuxièmement, est-ce que cela peut être l'une des raisons de ma non-prise de poids?
On va dire que c'est un petit peu un cercle vicieux, non, tout ça, professeur Awa Oumar Touré?
Tout à fait. L'anorexie fait partie des signes anémiques, surtout quand même chez l'enfant. Hein. Surtout chez l'enfant, les signes de la baisse d'activité ludique chez l'enfant, l'anorexie, fait parfois partie des signes d'anémie. Mais c'est un cercle vicieux, comme le dit Caroline. Vous ne mangez pas, vous êtes anémié, ça aggrave l'anorexie, vous êtes anorexique, ça aggrave l'amaigrissement. Je pense que le meilleur conseil actuellement, c'est vraiment, je ne sais pas ce que le médecin vous a dit par rapport à l'anémie. Il a recherché la cause de l'anémie, vous avez une carence en fer, vous avez une maladie sous-jacente. Ça, c'est quand même une anémie qui dure 5 ans. Est-ce qu'il a recherché la cause de l'anémie?
Qu'est-ce que vous pouvez répondre?
Nous avions eu une série d'examens à faire parce que l'anémie qui était un peu plus élevée très récemment, c'est quand j'étais enceinte. J'ai un bébé de 8 mois actuellement. Et lorsque cette fatigue est venue vraiment intense, il m'a fait faire une NFS et les résultats de la NFS ont montré que j'étais à 8,9 grammes. La seule chose qu'il a fait, c'est de me prescrire les faits avec la vitamine B12 que j'ai pris pendant au moins 4 à 5 mois. La fatigue est partie, mais actuellement, ça revient. C'est vrai, je ne suis pas rentrée encore à l'hôpital pour essayer encore de faire les autres examens pour essayer de vérifier. Concernant une maladie, il n'y avait rien qu'on a trouvé, peut-être VIH, hépatite, autres infections, tout était négatif.
Nikèse, vous avez été souvent sujette à des crises de palu ou pas?
Pas très souvent, c'est durant même la grossesse que j'ai eu le palu qui m'a attrapée. Et puis, il m'a mis sous traitement, c'est passé.
Professeur Awa Oumar Touré, peut-être dire à Nikèse de poursuivre justement les recherches?
Oui, et vraiment, comme vous lui avez conseillé, de faire quelque chose sur l'anorexie.
Ça veut dire que des fois, on se déshabitue à manger, après ça devient de plus en plus difficile, ça devient un trouble du comportement alimentaire. Mais encore une fois, quand on dit ça, vous n'y êtes pour rien, hein. Vous n'y êtes pour rien, oui, du tout. Par contre, se faire aider, ça peut justement permettre de comprendre, quand on dit souvent dans ces cas-là, fractionner les repas, faire plein de petits repas avec des choses, aller vraiment sur des choses dont on a vraiment envie, qui nous font plaisir, pour ceux aussi se remonter le moral. Parce que vous me disiez tout à l'heure, Nikèse, je ne suis pas déprimée, mais quand on est épuisé, quand on est anémié, ben, qu'on le veuille ou pas, on finit par traîner des pieds, à être un peu déprimé. Donc tout ça, il n'y a aucune culpabilité derrière tout ça. Mais ce qu'on entend, c'est que peut-être vous devriez vous faire aider, Nikèse.
D'accord, j'ai compris.
Merci beaucoup pour votre appel, Nikèse. On va partir maintenant pour la Guinée.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Et l'on retrouve Fatoumata en ligne. Bonjour Fatoumata.
Bonjour.
Alors Fatoumata, vous avez décidé de nous appeler au sujet de votre fille qui a 10 ans. À quelle occasion l'anémie de votre fille a-t-elle été diagnostiquée ?
Elle ne se sentait pas bien, elle avait de la fièvre et tout. Et donc, on a jugé nécessaire de l'amener à l'hôpital. C'est là qu'ils nous ont dit qu'elle a de l'anémie.
Et ils ont recherché les causes de cette anémie à l'hôpital ?
Oui, on est passé d'abord par deux hôpitaux avant d'arriver ici, à Donka. Mmh. Et ils nous ont donné un résultat disant qu'elle a la leucémie.
Ils vous ont dit « votre fille est atteinte de leucémie », c'est ça Fatoumata ?
C'est ce qu'ils nous ont dit.
Comment ça s'est passé, l'accueil de ce diagnostic en famille ? Comment ça s'est passé ?
Bon, la famille, je ne sais pas encore.
D'accord.
Il n'y a que moi et mon papa, et le papa de ma nièce qui le savent.
Vous en avez parlé à la petite ou pas encore ?
Non, pas encore.
Vous, qu'est-ce que vous savez de la leucémie ?
Bon, j'ai su que c'est un cancer du sang qui se traite par chimiothérapie et qui, après 5 ans, en fait, la durée de vie des patients, c'est jusqu'à 5 ans, en fait, d'après ce que j'ai vu. Quand même.
Ça dépend, en fait, de si la personne répond bien ou pas bien au traitement. Aujourd'hui, votre petite fille, elle est à l'hôpital. Est-ce que le traitement a commencé ?
Le traitement n'a pas encore commencé. On est à la recherche d'une prise en charge.
Oui.
Parce que la situation de la financière de la famille n'est pas comme ça, quoi.
Pour une leucémie chez un enfant, aujourd'hui en Guinée, il n'y a aucune prise en charge ?
Bon, à ce que je cherche, mais nous sommes maintenant vers le Fonds de développement social et d'indigence. Nous sommes vers ces gens-là pour voir si on peut avoir une prise en charge au moins de 3 mois.
On comprend que la situation est extrêmement difficile. Vous avez une question, justement, Fatoumata, par rapport au sujet de notre émission aujourd'hui ?
Oui, je voulais savoir les maladies qui sont liées à l'anémie et aussi quel traitement il faut pour ces maladies.
Alors peut-être la question, le fond de cette question, c'est le lien entre anémie et leucémie et savoir si, justement, l'un peut expliquer l'autre, professeur Awa Oumar Touré.
Oui. D'emblée, quand elle a parlé de fièvre, de fatigue chez l'enfant, j'ai dit qu'il y a autre chose que l'anémie simple. En effet, il y a assez de leucémie. Ça veut dire un cancer au niveau du sang. Ça vient de la moelle, là où nos cellules sont produites. Et ces cellules malignes du sang vont envahir la moelle et étouffer la moelle, ce qui fait qu'il n'y a plus de production de globules rouges. Anémie. Il n'y a plus de production de globules blancs. C'est ça qui est à l'origine de l'infection, puisqu'il n'y a pas de notre système de défense est à terre. Et il n'y a plus de production de plaquettes. À terme, il peut y avoir des saignements. Donc l'anémie est simplement liée par le fait que les cellules normales qui doivent sortir de notre moelle sont étouffées par des cellules, justement ces cellules leucémiques qui ont envahi notre moelle. Pour vous rassurer, les leucémies de l'enfant sont souvent lymphoblastiques et de bons pronostics. Et le fameux 5 ans que vous avez lu, c'est la rémission à 5 ans en fait. Et après, au-delà de 5 ans, on continue à surveiller les enfants. Et il y a 80% de rémission à 5 ans dans les pays développés, autour de 50% dans les pays qui ont la possibilité de prendre en charge les enfants, de faire la chimiothérapie. Qui ont des enfants qui sont leucémiques. Et au-delà, on suit l'enfant et on a des enfants qui guérissent très, très bien de la leucémie. J'imagine que la prise en charge dont vous parlez, c'est pour l'évacuation, j'imagine. Sa moelle étant envoyée, effectivement, il faut aller détruire ces cellules au niveau de la moelle par chimiothérapie.
Voilà pour ces explications. On vous dit bon courage à vous et à votre fille. Et on a ce message Facebook de Rardiata de Dakar qui souffre de fibrome. Elle aussi est anémiée. Rardiata prend du fer depuis plus d'un an. Alors, professeur Touré, comment expliquer que cette affection gynécologique, des fibromes, puisse provoquer de l'anémie ?
Le fibrome provoque une anémie parce que le fibrome saigne. Le fibrome en tant que tel ne provoque pas d'anémie parce que c'est une tumeur bénigne qui est collée à la face interne de l'utérus. Donc le fibrome saigne, certainement, c'est pour ça qu'il y a une anémie. Si le fibrome ne saigne pas, il y a une autre cause qui explique l'anémie. Dans ce cas, il faut voir le médecin. Si un fibrome saigne, ça devient un fibrome compliqué. Il faut voir votre gynécologue pour qu'il l'enlève.
Voilà pour cette réponse. Eh bien, c'est le moment de se dire au revoir. On vous salue. Merci beaucoup, professeur Awa Oumar Touré. Remerciements de vous être rendu disponible pour participer à notre émission. Au revoir et à bientôt.
Au revoir, ce fut un plaisir.
Plaisir partagé. Pour se dire tout à fait au revoir, pray for me, Nubian Twist dans Priorité Santé.
Magazine est une rediffusion.
Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui prépare et réalise votre émission. Et lundi, on va parler de l'enfant préféré au sein de la famille. Favoritisme assumé ou non, préféré, délaissé. Est-ce qu'il est vraiment possible d'aimer ses enfants de la même façon? Quelles conséquences pour l'estime de soi? On se retrouve à 9h10 temps universel dans Priorité Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.